Chapitre 2. Ce fut à 13 ans, je crois, que j'eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. J'étais alors élève de 4e au lycée de Nice et ma mère avait à l'hôtel Negresco une de ces vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Chaque écharpe, chaque ceinture ou chemisette vendue lui rapportait 10% de commission. Parfois, elle pratiquait une petite hausse illicite des prix et mettait la différence dans sa poche. Toute la journée, elle guettait les clients éventuels, fumant nerveusement d'innombrables gauloises, car notre pain quotidien dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans déjà, seule, sans mari, sans amant, elle luttait ainsi courageusement, afin de gagner chaque mois ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer le beurre, les souliers, le loyer, les vêtements, le beefsteak de midi, ce beefsteak qu'elle plaçait chaque jour devant moi dans l'assiette, un peu solennellement, comme le signe même de sa victoire sur l'adversité. Je revenais du lycée et m'attablais devant le plat. Ma mère, debout, me regardait manger avec cet air apaisé des chiennes qui allaitent leurs petits. Elle refusait d'y toucher elle-même et m'assurait qu'elle n'aimait que les légumes et que la viande et que les graisses lui étaient strictement défendues. Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait été cuit. Elle en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait ensuite avidement, et malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette, je sus soudain dans un éclair toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. Je demeurai là un moment, immobile, pétrifié, regardant avec horreur la poêle bien mal cachée sous la serviette et le sourire inquiet, coupable, de ma mère, puis j'éclatai en sanglots et m'enfuis. Au bout de l'avenue Shakespeare, où nous habitions alors, il y avait un remblai presque vertical qui dominait le chemin de fer, et c'est là que je courus me cacher. L'idée de me jeter sous un train et de me dérober ainsi à ma honte et à mon impuissance me passa par la tête, mais presque aussitôt, une farouche résolution de redresser le monde et de le déposer un jour au pied de ma mère, heureux, juste, digne d'elle, enfin, me mordit au cœur d'une brûlure dont mon sang charria le feu jusqu'à la fin. Le visage enfoui dans mes mains, je me laissai aller à ma peine, mais les larmes qui me furent souvent si clémentes ne m'apportèrent cette fois aucune consolation. Un intolérable sentiment de privation, de dévirilisation, presque d'infirmité s'empara de moi. Au fur et à mesure que je grandissais, ma frustration d'enfant et ma confuse aspiration, loin de s'estomper, grandissaient avec moi et se transformaient peu à peu en un besoin que ni femme ni art ne devaient plus jamais suffire à apaiser. J'étais en train de pleurer dans l'herbe lorsque je vis ma mère apparaître en haut du talus. Je ne sais pas comment elle avait découvert l'endroit. Personne n'y venait jamais. Je la vis se baisser pour passer sous les fils de fer, puis descendre vers moi, ses yeux gris pleins de lumière et de ciel. Elle vint s'asseoir à côté de moi, son éternelle gauloise à la main. « Ne pleure pas. Laisse-moi. Ne pleure pas. Je te demande pardon. Tu es un homme maintenant. Je t'ai fait de la peine. Laisse-moi, je te dis !» Un train passa sur la voie. Il me parut soudain que c'était mon chagrin qui faisait tout ce fracas. Je n'en recommencerai plus. Je me calmai un peu. Nous étions assis sur le remblai tous les deux, les bras sur les genoux, regardant de l'autre côté. Il y avait une chèvre attachée à un arbre, un mimosa. Le mimosa était en fleurs, le ciel était très bleu et le soleil faisait de son mieux. Je pensais soudain que le monde donnait bien le change. C'est ma première pensée d'adulte dont je me souvienne. Ma mère me tendit le paquet de gauloises. « Tu veux une cigarette ?»« Non. » Elle essayait de me traiter en homme. Peut-être était-elle pressée, elle avait déjà 51 ans. Un âge difficile lorsqu'on n'a qu'un enfant pour tout soutien dans la vie. « Tu as écrit aujourd'hui ?» Depuis plus d'un an, j'écrivais. J'avais déjà noirci de mes poèmes plusieurs cahiers d'écoliers. Pour me donner l'illusion d'être publié, je les recopiais lettre par lettre en caractère d'imprimerie. Oui, j'ai commencé un grand poème philosophique sur la réincarnation et la migration des âmes. Elle fit bien de la tête. Et au lycée, j'ai eu un 0 en maths. Ma mère réfléchit. Ils ne te comprennent pas, dit-elle. J'étais assez de son avis. L'obstination avec laquelle mes professeurs de sciences me donnaient des zéros me faisait l'effet d'une ignorance crasse de leur part. Ils regretteront, dit ma mère. Ils seront confondus. Ton nom sera un jour gravé en lettres d'or sur les murs du lycée. Je vais aller les voir demain et leur dire. Je frémis. Maman, je te le défends, tu vas encore me ridiculiser. Je vais leur lire tes derniers poèmes. J'ai été une grande actrice, je sais dire des vers. Tu seras D'Annunzio, tu seras Victor Hugo, prix Nobel. Maman, je te défends d'aller leur parler. » Elle ne m'écoutait pas. Son regard se perdit dans l'espace et un sourire heureux vint à ses lèvres, naïf et confiant à la fois, comme si ses yeux, perçant les brumes de l'avenir, avaient soudain vu son fils, à l'âge d'homme, monter lentement les marches du Panthéon, en grande tenue, couvert de gloire, de succès et d'honneur. « Tu auras toutes les femmes à tes pieds, » conclut-elle catégoriquement en balayant le ciel de sa cigarette.